Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Fréquence 7 pour cette nouvelle émission que l'on va évidemment commencer avec cette question. Pourquoi faut-il raconter des histoires? Et aujourd'hui, je vais vous soumettre la réponse de Mohamed Kassimi. Voilà ce qu'il dit quand on lui pose la question « Pourquoi faut-il raconter des histoires ?» Il répond « Enfant, j'étais insomniaque. Et ma grand-mère, qui redoutait ces moments-là, avait trouvé une astuce assez géniale pour économiser ses histoires et ses mots, parce qu'elle savait que chaque nuit allait être assez longue. Voilà ce que donnaient ses contes. Il était une fois, dans un pays très loin, un prince qui était beau, et qui aimait une princesse qui était belle. Et ça durait 20 ou 30 minutes. Et à chaque fois, le sort les séparait et les moments de la grande traversée de la nuit commençaient quand il allait chercher la princesse. Là, il marchait. C'était interminable jusqu'à ce que le sommeil arrive. Plus tard, je me suis rendu compte que dans cette économie, ou plutôt dans cette ouverture incroyable du mot, avec cette façon de s'arrêter à chaque mot, de laisser à un enfant dans la nuit la possibilité de sculpter à sa guise la beauté de cette princesse. Ma mère me racontait une histoire, mais laissait à cette histoire le temps d'imprégner ma tête. Il y avait toute l'éternité qui était là. Quand je suis devenue écrivain, je crois que c'est grâce à cette magie de l'économie des mots et de l'ouverture du sens étalé comme autant d'espace que l'enfant que j'étais avait pu investir. Raconter une histoire, c'est laisser à l'autre un espace. L'histoire n'est pas un supplément d'âme, mais elle est l'âme elle-même. Je prendrai l'exemple d'une jeune institutrice en Algérie qui, lors d'un stage, m'avait émerveillée tant elle lisait formidablement bien, n'ayant par ailleurs jamais fait de conservatoire ou de théâtre. Travaillant dans une banlieue difficile, très pauvre et à risque, il se trouve qu'un matin, elle était entrée dans la salle des professeurs et avait trouvé tous ses collègues assassinés par des islamistes. Le temps de prévenir la police et pour que les enfants ne soient pas effrayés, elle a fermé la porte et elle a dit « Il était une fois ». Les enfants sont partis dans ce conte et c'est devenu une tradition dans l'école de raconter chaque matin une histoire. L'histoire n'est pas une fabulation ni un mensonge. L'histoire, c'est la réalité que l'on invente quand le réel du monde est en deçà de nos attentes. À propos de ce côté névralgique, crucial de l'histoire, voici un passage d'un récit hassidique. Quand le rabbi Israël sentait qu'un malheur allait arriver à son peuple, il allait se recueillir à un certain endroit de la forêt. Là, il allumait un feu, récitait une prière, et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Maguid de Meseritch, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit de la forêt et il disait « Maître de l'univers, je ne sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Et le miracle s'accomplissait. Plus tard, le rabbi Moshe allait lui aussi dans la forêt et disait « Seigneur du monde, je ne sais pas comment allumer le feu. Je ne connais pas la prière, mais je peux situer l'endroit et cela devrait suffire. » Et cela suffisait encore. Le miracle s'accomplissait. Plus tard, ce fut le tour du rabbi Israël de Nizin d'écarter la menace, assis dans son fauteuil. Il se prenait sa tête entre ses mains et parlait à Dieu. « Seigneur du monde, je suis incapable d'allumer le feu. Je ne connais pas la prière. » Je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire. Et le miracle s'accomplit. Oh, quelle belle réponse. Pourquoi faut-il raconter des histoires? Mais ça me paraît du coup complètement évident, non? Eh bien, je ne sais pas pourquoi peut-être il faut en raconter, mais je sais que je vais vous en raconter une. Il était une fois en Suisse un comte fort âgé qui n'avait qu'un fils unique. Mais ce fils était stupide et ne savait rien apprendre. « Écoute, mon fils, lui dit son père, je n'arrive à rien avec toi. Je suis incapable, quoi que je fasse, de te mettre la moindre chose dans la tête. Tu vas donc partir d'ici et je vais te confier à un maître fameux qui tentera de faire quelque chose de toi. » Le jeune homme fut envoyé dans une autre ville, où il resta avec ce maître pendant toute une année. Il revint chez lui, ce délai passé, et son père lui demanda « Eh bien, qu'as-tu donc appris, mon fils ?»« Père, j'ai appris ce que disent les chiens quand ils aboient. » « Oh !» s'écria le père. « Est-ce tout ce que tu as appris ?»« Ah, c'est bon, je vais t'envoyer dans une autre ville, chez un autre maître. » Le jeune homme fut conduit là-bas et demeura chez ce nouveau maître une année également. À son retour, son père lui demanda « Eh bien, qu'as-tu appris cette fois-ci, mon fils ?»« Père, j'ai appris ce que disent les petits oiseaux. » Le vieux père se mit en colère et cria « Misérable créature, tu as perdu tout ce temps précieux et coûteux pour ne rien apprendre du tout et tu n'as pas honte de te montrer devant moi. Tu iras chez un troisième maître, mais si cette fois-ci tu n'apprends rien, je ne veux plus être ton père. » Le fils demeura chez le troisième maître une année également, puis rentra à la maison. Et son père lui demanda « Mon fils, qu'as-tu appris ?» « Mon cher père, cette année-ci, j'ai appris ce que coassent les grenouilles. » Pris de fureur, le père se dressa tout debout, appela ses gens et leur dit « Cet individu n'est plus mon fils désormais. Je le chasse et je vous ordonne de l'emmener dans la forêt pour lui ôter la vie. Je ne veux plus le voir. » Les gens l'emmenèrent, mais au moment de lui ôter la vie, ils eurent pitié et le laissèrent, tuant un chevreuil pour lui prendre les yeux et la langue qu'ils rapportèrent comme preuve au vieux comte. Le jeune homme marcha devant lui. Il arriva, au bout d'un certain temps, dans une ville forte, où il demanda un asile pour la nuit. « Oui, dit le seigneur de la forteresse, si tu veux passer la nuit dans le vieux donjon là-bas, tu n'as qu'à y aller. Mais je te préviens, c'est au péril de ta vie. » Parce que c'est plein de chiens sauvages qui hurlent et aboient tout le temps et qui, à certaines heures, veulent avoir un homme qu'ils dévorent instantanément. Toute la contrée souffrait et pleurait à cause de cela, mais personne n'y pouvait rien changer. Le jeune homme, par contre, n'en fut pas ému et dit « Laissez-moi aller chez ces chiens hurleurs et donnez-moi quelque chose que je puisse leur jeter en arrivant. Ils ne me feront rien. » Comme ils ne demandaient pas plus, ils lui donnèrent quelque nourriture à jeter aux chiens, et ils le conduisirent jusqu'au vieux donjon. Les chiens féroces n'aboyèrent point quand il entra, mais vinrent autour de lui en frétillant de la queue. Ils mangèrent gentiment ce qu'il avait apporté et le laissèrent en paix. Ils ne touchèrent pas même un cheveu de sa tête. Le lendemain matin, ce fut à l'étonnement général qu'il ressortit sain et sauf du vieux donjon, et réapparut devant le seigneur de la forteresse, auquel il dit « Les chiens m'ont appris et révélé dans leur langage pourquoi ils demeurent là-bas et font régner la terreur sur le pays. Ils sont ensorcelés. Ils doivent garder un grand trésor qui est enfoui dans le donjon. Tant qu'il n'aura pas été découvert, ils ne retrouveront pas la paix. Mais j'ai aussi appris comment il fallait faire pour avoir le trésor en les écoutant parler dans leur langage. » Tous se réjouirent en entendant cela, et le seigneur de la forteresse lui dit qu'il le tiendrait pour son fils s'il réussissait à mener la chose à bien. Le jeune homme redescendit au donjon, et comme il savait ce qu'il fallait faire, il le fit, et il revint bientôt, apportant avec lui un gros coffre plein d'or. Les hurlements des chiens s'étaient éteints à l'instant même, et plus jamais on ne les entendit depuis. Ils avaient disparu, et le pays était débarrassé de ce fléau. Le temps passa, puis le jeune homme eut envie d'aller à Rome et se mit en route. Un jour que son chemin bordait un étang où tout un peuple de grenouilles séjournait en coassant, il s'arrêta pour les écouter. Et comme il comprenait ce qu'elles disaient dans leur langage, il devint tout pensif et mélancolique pendant le reste de son voyage. Il entra à Rome quand le pape venait juste de mourir, et la plus grande incertitude régnait parmi les cardinaux quant au successeur qu'il devait lui donner. Ils tombèrent tous d'accord pour finir et décidèrent que le pape à élire serait celui qui serait désigné par un signe manifeste et miraculeux de la volonté divine. Or, à l'instant précis où cette décision venait d'être arrêtée, le jeune comte entrait dans l'église et deux colombes blanches vinrent se poser sur ses épaules, une de chaque côté, et elles restèrent posées là. Le clergé, reconnaissant là le signe de Dieu, vint immédiatement sur place lui demander s'il acceptait de devenir pape. Le jeune homme hésitait, ne sachant pas s'il en était digne. Mais les colombes couleur de neige lui parlèrent et lui dirent qu'il le devait. Et pour finir, il dit oui. Après la consécration qu'il reçut sur l'heure, il était accompli. Il était accompli ce qu'il avait entendu dire par les grenouilles lors de son voyage. Et c'est ce pourquoi il avait été si mélancolique et pensif, à savoir qu'il deviendrait pape en arrivant à Rome. Mais quand il lui fallut chanter la messe, comme il n'en savait pas le premier mot, ce furent les colombes posées sur ses épaules qui lui soufflèrent le tout dans son oreille. What a wonderful world. On continue avec une histoire qui nous vient de Grèce. Il était une fois un riche paysan qui possédait de nombreux troupeaux, vaches, chèvres et moutons. Il avait 8 enfants, 7 garçons et une fille cadette, nommée Despini. Ah, c'était sa préférée. Depuis quelque temps, le paysan était soucieux. Tous les matins, il trouvait dans ses étables ou dans ses prés des bêtes mortes. Il ne comprenait pas pourquoi, car ses bêtes étaient bien soignées. S'il continuait ainsi, il ne lui resterait plus qu'à mendier son pain avec ses enfants. Assis sur le pas de la porte, il roulait de tristes pensées lorsque passa devant lui un vieillard qui lui dit « Je sais ce qui te préoccupe. Quelqu'un chez toi te porte malheur. Ce soir, quand tes enfants seront couchés, va dans leur chambre, soulève leur édredon et regarde la position qu'ils prennent dans leur sommeil. » Celui qui aura mis ses mains entre ses cuisses, tu devras le chasser. Sinon, tes bêtes périront toutes, et toi, tu mourras de faim. Le soir même, le père regarda dormir ses enfants. L'un avait étendu les bras, un autre les laissait pendre, les autres les avaient repliés sous sa tête, un autre gardait les poings serrés. Bref, aucun d'eux n'avait mis ses mains entre ses cuisses. Oh, sauf la cadette, sa fille chérie, Despini. À cette vue, le cœur du pauvre père bondit dans sa poitrine. Quoi ? Se débarrasser de sa cadette, sa petite, sa préférée ? Mais pourtant il le fallait. S'il ne se décidait pas, ce serait la misère pour lui et les autres enfants. Le lendemain, la mort dans l'âme, il appela son plus fidèle serviteur, Yanis. Il lui donna l'ordre d'aller couper du bois dans la montagne, loin, très loin, très très loin, et d'y emmener la fillette, et de l'y abandonner. Dans la montagne, à l'ombre légère des pins, le serviteur marchait d'un bon pas, sa hache sur l'épaule. Despini le suivait en chantonnant, enchanté de la promenade. Vers midi, Yanis jugea qu'il était allé assez loin et s'arrêta sous un arbre. Il accrocha à la branche basse sa gourde pleine d'eau et un sac rempli de morceaux de pain. « Voilà pour toi, » dit-il à la fillette. « Bois et mange si tu veux et repose-toi. Je m'en vais couper du bois, attends-moi là. » Et il s'en alla. La petite commença à l'attendre et au début, le temps passa vite. Despini jouait avec des cailloux, des brindilles, des insectes. Mais bientôt, la chaleur se fit moins vive. La lumière baissa et le vent se leva. Et la fillette prit peur. Elle appela en pleurant. « Yanis, Yanis, es-tu là ? Réponds-moi, est-ce toi qui coupes du bois près d'ici ?» Elle entendait des coups sourds. Ce n'était que la gourde agitée par la brise du soir, cognant contre le tronc du pin. Elle pleura et appela longtemps, errant dans la forêt toute la nuit. Au matin, elle découvrit un village dans un repli de la montagne. Elle s'arrêta dans la première maison. Les gens, la voyant bien vêtue, pensèrent que c'était une enfant de bonne famille qui s'était perdue. Ils la gardèrent pendant la journée et la nuit suivante. Le lendemain, au réveil, ils trouvèrent toutes leurs bêtes mortes, mortes sans raison apparente. « C'est toi qui nous as porté malheur, » dirent-ils à Despigny. « Ce qui est arrivé, c'est sûrement à cause de toi, va-t'en !» La pauvre petite alla un peu plus loin, demander l'hospitalité dans une autre ferme. Oh, pas pour longtemps. Elle se rendait bien compte qu'un mauvais sort l'accompagnait et qu'elle ne pouvait pas rester. Mais les fermiers avaient bon cœur. Ils insistèrent pour qu'elle passe la nuit chez eux. Elle dormit dans la ferme et toutes les bêtes moururent. Elle partit. Elle alla plus loin et comme plus personne ne voulait d'elle, elle se mit à pleurer. C'était le troisième jour après son départ de la maison paternelle. Une veuve, qui habitait la dernière maison du village, eut pitié d'elle. « Viens, petite, lui dit-elle, puisque tout le monde te chasse, je te prendrai chez moi. Vous n'avez pas peur que vos bêtes meurent? Je n'en ai pas beaucoup, mais je porte malheur. On verra bien, entre !» Les bêtes de la veuve moururent en effet. Cependant, elle garda l'enfant. Elle avait décidé d'aider la fillette à combattre sa mauvaise fortune. Elle la traitait comme sa fille et Despigny l'appelait affectueusement « ma tante ». Un jour, la veuve fit cuire des galettes et des gâteaux. Elle avait fait simplement les galettes avec de la farine, du sel et de l'eau. Mais dans la pâte des gâteaux croustillante et légère, elle avait mis du beurre et des œufs et l'avait pétrie longuement. Elle remplit un panier de ces bonnes choses et le tendit à Despigny. « Tiens, ma fille, va porter ce panier aux moires. » Sors du village, suis le chemin jusqu'au vallon plein d'ombre où s'élève leur château. Les moires sont de grandes femmes sombres, filles de la nuit. Elles tiennent dans leurs mains le fil de la vie des hommes. Chacun de nous a sa moire personnelle qui veille sur sa destinée, bonne ou mauvaise. La mienne est simple et gentille. Tu lui donneras une galette. Les gâteaux seront pour les autres moires. Observe-les bien, car il faudra que tu découvres laquelle est la tienne et que tu l'obliges à s'occuper de toi, pour que cesse ta malchance. « Merci, ma tante, » répondit la fillette. Elle prit le panier, se rendit au château des moires et s'assit devant leur porte. Elle criait « Oh, sort des sorts, et le sort qui m'appartient, oh, mon destin !» Elle cria ainsi pendant des heures, jusqu'à en être enrouée. Vers le soir, une des moires ouvrit la porte, la bouscula en lui arrachant son panier, et le lui rendit quelques minutes plus tard, rempli de crottes. « Regarde-moi ça, ma tante. C'est ce que m'ont donné les moires, » dit la petite en montrant son panier à la veuve. « Et elles ne m'ont même pas laissé entrer. »« Ne te décourage pas, ma fille, je vais faire d'autres gâteaux, et tu les leur porteras demain. » Le lendemain, les moires agirent de la même façon, et la veuve répondit à l'enfant de la même façon. Le troisième jour, la moire qui ouvrit la porte avait un visage agréable, un bon sourire, et elle s'écria « Ah, tu m'as apporté une galette de la part de ta tante? Entre, petite. » La fillette pénétra dans une grande pièce mal éclairée, où s'activaient des centaines de femmes occupées à filer. Une seule ne travaillait pas. Elle s'amusait à lancer en l'air et à rattraper une pelote dorée. Quand elle vit arriver Despigny, elle s'approcha d'elle paresseusement et lui dit « C'est donc toi, petite fille, qui m'apporte de si bons gâteaux? Puisque tu es si généreuse, je vais te faire un cadeau. » La moire se pencha, embrassa la fillette, et déposa la pelote de soie dorée dans le panier. Puis elle poussa l'enfant vers la porte. « Ta malchance va tourner, » affirma la veuve de Despigny. « Cache cette pelote et attends. » Plusieurs années s'écoulèrent. Despigny devint une belle jeune fille. Elle et sa tante furent un jour invitées à un mariage. Elles revêtirent leurs meilleurs habits. Despigny était resplendissante. Le fiancé était un beau garçon à l'air aimable. La fiancée n'était ni jolie ni gentille, mais elle était riche. Quand tous les invités furent arrivés, on s'aperçut que les fiancés n'étaient pas prêts. Leurs couronnes n'étaient pas attachées. En ce temps-là, la coutume voulait qu'on attache les couronnes qu'avec du fil de soie. Impossible d'en trouver. Personne n'en possédait. « Ah, mais si !» fit tout à coup la veuve. « Despigny en a justement une pelote. Que lui donnerez-vous en échange, si elle vous la porte ?» qu'on mette la soie sur la balance et qu'on donne à la jeune fille le poids équivalent en or, déclara le fiancé. Despigny apporta la pelote que lui avait donnée sa moire. Elle la posa sur une des deux plateaux de la balance. Dans l'autre, on mit une belle somme en or. Mais la soie pesait plus lourd. On ajouta des pièces aux pièces. Mais la soie pesait toujours plus lourd. Alors on alla chercher une balance énorme. Mais rien n'y faisait. Le plateau dans lequel se trouvait la pelote de soie était toujours plus lourd que l'autre. Finalement, le fiancé se décida, avant que toute sa fortune y passe. Il monta lui-même dans le plateau où l'on avait entassé l'or. Et cette fois, les deux plateaux s'équilibrèrent parfaitement. Le signe du destin était clair. Il fallait que le fiancé ajoute sa personne à l'or. Il fallait donc qu'il épouse Despigny. C'est ce qu'il décida aussitôt de faire, sans regret. Le festin de leurs noces allait bon train dans la maison du fiancé. Par la fenêtre ouverte, sortaient par bouffées des cris joyeux, des rires, des chants, de la musique. Un vieux qui passait par là sur le chemin s'arrêta pour regarder à l'intérieur de la maison. Il regarda les invités, le marié, la mariée. La mariée ! Mais c'était sa fille ! Sa fille perdue, sa fille chérie, Despigny, cria-t-il. Mon père, répondit Despigny. Père et fille s'étant retrouvés, le festin put continuer, la musique reprendre, la gaieté redoubler, et la chance leur sourit jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, c'est déjà l'heure de se séparer. On se retrouve le mercredi et le samedi à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, n'hésitez pas, racontez-vous des histoires!